La première lecture dans la première alliance dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà pour cette première lecture. La seconde, dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 1 à 10. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ta parole est une eau pure qui désaltère, guérit et envoie. Donne-nous toujours de cette eau, notre Dieu. Ce matin, en ce temps de commencement, en ce temps de départ, de reprise, de nouveauté et d'incertitude aussi, sur cette année qui s'ouvre avec ce qu'elle nous réserve, je voulais revenir sur les débuts de ce personnage, d'Abraham, et sur son appel, et peut-être qu'aujourd'hui sera l'occasion d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes en essayant ensemble de comprendre comment le Père des croyants a commencé et comment il s'est construit. Et lorsqu'on le découvre dans le 12e chapitre donc de notre Bible, de la Genèse, l'humanité a déjà connu pas mal de revers, les uns après les autres, et pas mal d'échecs aussi. On peut imaginer que le premier lecteur de la Bible, celui qui la découvre, là, commence un petit peu à se lasser et à désespérer de la race humaine. Adam a échoué au jardin en désobéissant au seul commandement qui lui avait été donné de ne pas toucher du fruit défendu, et puis ses enfants se sont entretués, et voilà, après l'histoire, on va dire, de Babel et ce qui s'est mal passé, l'échec, on va dire, aussi de la tour de Babel, Dieu, semble-t-il, quand même ne se résout pas à laisser l'humanité face à son orgueil, à vouloir le détruire, comme ça a été le cas à l'époque de Noé, encore des revers. Mais cette fois, il conserve un projet de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Il propose alors un nouveau commencement en appelant un homme seul à se mettre en marche. Et cet homme pourrait être encore le type de l'homme d'aujourd'hui à qui l'Écriture rappelle qu'il peut échapper au destin peut-être déjà tout tracé devant lui par d'autres, s'en affranchir et tracer lui-même sa propre destinée, sa propre route et devenir vraiment authentiquement lui-même. Un texte, un passage, une histoire qui finalement nous apprend le devenir soi, Alors, comme nous ne savons pas grand-chose d'Abraham avant ce chapitre 12, nous le rencontrons pour la première fois vraiment dans cet instant-là, et nous ne savons rien de ce qui précède, de son enfance, de ce qu'il avait été. Et donc, nous sommes un peu obligés de nous tourner vers le Talmud et vers les commentateurs de la Torah pour essayer de le connaître un peu davantage. Et ça me plaît beaucoup parce que la tradition rabbinique présente Abraham comme un chercheur de sens. Sa quête de sens lui a fait comprendre que les idoles qui étaient adorées à Ur, la cité où il a grandi, en Irak, en Chaldée, que ces idoles n'avaient aucun pouvoir. Et s'il y a tant réfléchi, c'est qu'il a raconté que son père même était un fabricant et un vendeur de ces idoles, de ces statues. Et bien sûr, les idées progressistes d'Abraham étaient plutôt mal vues, mal comprises, que ce soit dans sa famille ou dans son environnement culturel. Une des histoires du Talmud, qui est assez marrante, mais que j'ai peut-être dû raconter déjà ici, rapporte qu'un jour, alors qu'Abraham était adolescent, il était censé surveiller le magasin d'idoles de son père, qui était absent, et c'était lui qui était en charge. Et révulsé vraiment à l'idée de ces statues qui égarent les hommes loin de Dieu, et pour ouvrir les yeux de ses proches sur le sujet, il prend une batte de baseball, elle n'existait pas à l'époque, imaginez une canne en bois, et il commence à casser les unes après les autres, systématiquement, toutes les idoles qui sont dans le magasin. Sauf une, la plus grande. Lorsque le père revient et qu'il découvre le carnage, demande des explications quand même à Abraham, et celui-ci dit qu'il n'a rien pu faire, en fait, c'est la plus grande idole qui, jalouse de toutes les autres, s'est mise à les abattre les unes après les autres. Il avait déjà de l'humour, notre Abraham. Abraham était un chercheur de Dieu, et sa quête commence au milieu d'un peuple idolâtre. Et parce qu'il contestait la religion du lieu, les commentaires racontent encore qu'il fut un jour convoqué par Nemrod, le roi. Et puisqu'Abraham refusait d'adorer les images et les statues, Nemrod lui demande d'adorer le feu. Abraham a répondu, il vaudrait mieux adorer l'eau qui éteint le feu. Alors Nemrod lui dit, ok, d'accord, alors adore l'eau. Et en poursuivant sa logique, il dit, on devrait peut-être adorer plutôt les nuages qui, d'où l'eau procède. Alors prosterne-toi devant les nuages, demande Nemrod. Mais Abraham dit, mais n'est-il pas préférable d'adorer le vent qui pousse les nuages et qui disperse les nuages? Alors incline-toi devant le vent. Et Abraham conclut, je ne peux adorer que l'être vivant qui est à l'origine du vent. Et c'est là qu'il s'est mis alors en marche vers lui-même, à la quête de celui qui était au-dessus du feu, au-dessus de l'eau et au-dessus du vent. Alors entendons bien que Abraham, lorsqu'il quitte Ur, ne quitte pas Ur et ne quitte pas toute sa vie parce qu'il a trouvé Dieu. Non, il quitte toute son existence pour trouver Dieu. Et c'est une manière différente de comprendre cette histoire. C'est non seulement Dieu qui est à découvrir en plus dans cette marche, mais le texte nous apprend que c'est lui-même. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'en hébreu, la parole que Dieu adresse à Abraham dans le premier verset de notre chapitre, dit en fait, exactement, en hébreu c'est « Lech Lecha », et ça veut dire « va pour toi-même hors de ton pays, va pour toi, va vers toi ». On pourrait le traduire comme ça aussi, « va vers toi ». Et par cette parole, Dieu dit que c'est en route qu'il atteindra éventuellement le terme de sa quête. C'est en marchant et à l'écoute de ce Dieu immatériel, transcendant, loin des idoles, qu'il se trouvera lui-même, qu'il se découvrira, qu'il découvrira sa vraie personnalité et le sens de sa vie. Et dans son exil, Abraham va comprendre que son identité ne se trouve pas tant derrière lui, dans sa naissance, sa nationalité, sa terre, sa famille, mais qu'elle se trouve devant ses pas, le long d'une marche dans le désert. D'où peut-être cet étrange premier verset « Va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père. » Est-ce qu'il n'aurait pas suffi de dire « Va dans le pays que je te montrerai ?» À quoi bon, finalement, énumérer tous les détails de ce que Abraham était appelé à quitter ? Et là, j'aime bien encore la proposition des rabbins pour répondre à ça. Ils disent que si la Torah ne s'est pas contentée d'une courte phrase « Va dans le pays que je te montrerai », parce que si ça avait été écrit comme ça dans la Torah, on aurait pu croire éventuellement que si, sans poser de questions, Abraham s'était levé, était parti, avait accepté de partir comme ça, sans foyer, sans avoir rien à quitter, en étant dépourvu de pays, ignorant son lieu de naissance, sans réel foyer, un pauvre bédouin nomade qui n'avait donc rien à perdre, et en partant comme ça, en obéissant aveuglément à Dieu, eh bien, c'est pour ça que la Torah a insisté pour montrer qu'en fait, Abraham avait beaucoup à perdre en quittant. Il avait une existence à laisser derrière lui et qu'il avait énormément à perdre. Ça lui a coûté. Un départ, on va dire, qu'il lui a coûté. Et en laissant tout ça derrière lui, Abraham a choisi de renoncer aux certitudes et à la sécurité d'un monde connu pour avancer, pour lui-même, vers cette destinée qui se cachait dans l'inconnu du changement. Et voilà, dans tout changement, l'inconnu est là pour nous. Et voilà qui peut nous parler justement et nous encourager nous-mêmes à prendre notre vie en main pour avancer vers l'inconnu de la vie, parce qu'on se trouve vers l'avant. Cet inconnu et ce qui nous attend se trouve toujours vers l'avant, jamais vers l'arrière. L'arrière, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui nous pousse vers l'avant. Va-t'en de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père. Jacques Attali, dans son livre « Devenir soi », justement, relie ce passage. Alors, ce n'est pas du tout un livre qui est écrit sur la Bible, mais je suis tombé dessus cette semaine. Il a un chapitre intéressant, justement, sur ces quelques versets. Et lui, il donne une autre chronologie, alors qu'on peut comprendre comme un premier mode d'emploi, justement, du « devenir soi », un premier exercice de la liberté. Et au lieu de traduire les premiers mots « l'éclaira » mais « eretzera », donc littéralement c'est « va vers toi de la terre », on pourrait le traduire comme ça, vraiment littéralement, « quitte ton pays », on va dire dans nos traductions françaises, eh bien on peut le traduire par « va vers toi et quitte ta volonté ». Parce qu'il remarque que le mot « eretz », qui veut dire « la terre », peut aussi traduire le mot « volonté ». Peut être traduit en français par le mot volonté. Ce sont les deux sens. Alors pour Attali, il faut donc entendre que prendre le pouvoir sur soi suppose, dans un premier temps, d'échapper aux illusions de ses désirs, de se délivrer de ce qu'on croit être sa volonté. Et quelquefois, on s'engage d'ailleurs dans des métiers, dans des pays, dans des voyages, en croyant que c'est notre propre volonté alors qu'on est dans le désir d'un autre. Et c'est ça qu'il est en train de pointer du doigt ici. Il continue en disant qu'il y aurait peut-être une deuxième étape dans ce devenir soi qui consisterait, selon ce verset de la Bible, il reste sur le verset, non pas à quitter son véritable lieu de naissance, mais plutôt métaphoriquement à abandonner ses convictions les plus intimes. Celles qui se sont enracinées en nous, qui se sont érigées, qui ont grandi, qui se sont fortifiées là depuis notre enfance et qui font ce que nous sommes, qui sont là parce que nous sommes dans telle culture, dans telle famille, dans telle éducation, que nous avons telle histoire. Et puis la troisième étape consiste non pas tant à quitter la maison de son père, mais là encore, symboliquement et peut-être plus profondément, à renoncer. Renoncer justement à son éducation familiale, celle qui semble pourtant la plus justifiée, parce qu'enracinée par toutes les générations précédentes, au point qu'on peut imaginer qu'on est censé à son tour l'incarner et la perpétuer. À renoncer aux idoles aussi, telles qu'elles étaient adorées dans la maison paternelle. Autrement dit, Abraham doit lâcher prise, renoncer à ses convictions profondes, forgées par son éducation, sa culture, son histoire, ses expériences, dans le but de s'éloigner, de prendre de la distance, s'éloigner de la volonté d'autrui, de la volonté d'un autre pour lui, et en particulier peut-être justement de sa famille, tant biologique qu'intellectuelle. Il lui faut s'affranchir, et s'en affranchir pourquoi ? Eh bien pour être libre d'avancer pour lui-même. Oui, comme Abraham, la libération de l'homme doit le conduire à prendre conscience qu'il peut choisir d'être totalement libre et affranchi de son passé, de son histoire familiale, culturelle, religieuse, pour se mettre de manière nouvelle à l'écoute d'une volonté transcendante pour le guider, pour le diriger, pour l'inspirer, pour l'aider à faire ses choix. C'est une histoire de confiance dans l'existence, en fait, une histoire de confiance dans l'avenir. D'ailleurs, la parole que Dieu donne à Abraham, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ne dit pas « va vers le pays que je te montre », mais « va vers le pays que je te montrerai ». Comme si ça voulait dire que même sa marche est criée au futur. C'est en marchant qu'il découvrira. Dieu ne donne pas de réponse à Abraham, il lui dit que c'est en chemin qu'il les trouvera. Ainsi, ce départ d'Abraham n'est pas le sacrifice d'un homme qui renonce à tout son confort et à sa tranquillité pour plaire à un Dieu qui aime qu'on lui obéisse. Non, il marche vers lui-même et pour lui-même. Alors, en ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, cette histoire d'Abraham nous apprend peut-être à nous considérer davantage comme des étrangers à nos certitudes, à ne jamais nous satisfaire de situations données et surtout à ne jamais désespérer de ce qui est devant nous et ce qui est encore, par définition, inconnu. Parce que c'est précisément dans cet inconnu que nous sommes appelés à trouver des réponses. Des réponses sur Dieu et des réponses sur nous-mêmes. Alors pour nous, ce matin, la vie d'Abraham est une vie qui nous envoie, une vie qui nous invite à faire de l'interrogation permanente la démarche, on va dire, de notre démarche spirituelle, le fondement de notre démarche spirituelle, l'interrogation. Si Abraham est considéré comme le père des croyants, c'est qu'il nous rappelle la valeur inestimable de l'interrogation. Quand on ne pose plus de questions, c'est qu'on est enfermé dans ses certitudes ou c'est qu'on est mort. Interroger, c'est se sentir à égale distance entre le dogmatisme d'un côté qui prétend connaître toutes les réponses et le scepticisme de l'autre qui prétend qu'il n'y a pas de réponse. Le dogmatique et le sceptique se situent aux deux pôles d'une même ligne et ils ont en commun de refuser l'incertitude de la question en y apportant soit toutes les réponses toutes faites, soit l'idée qu'il n'y a pas de réponse possible. Mais ce matin, justement, Abraham nous propose une troisième voie, celle de la marche dans un désert. Une marche destinée à nous garder de nos certitudes. Une marche au cours de laquelle nous nous trouvons, nous nous réalisons, nous nous découvrons toujours un peu plus. Une marche sur un chemin où Dieu nous attend et nous donne rendez-vous chaque jour de cette année qui s'ouvre. Amen.